pour Radio Campus Rennes, nous sommes en compagnie de Jean Guinel, journaliste et spécialiste des questions militaires et qui débattait avec Philippe Aigrin sur la guerre 2.0. A-t-elle commencé ? Et notamment dans la conférence, vous avez souligné que c'était des technologies militaires qui étaient rendues civiles. Est-ce que le mouvement activiste, avec hack comme hacker, n'est pas une réappropriation des civils de la technologie et qui dépasse parfois les gouvernements ?
Les hackers, c'est un mouvement ancien qui existe depuis longtemps, qui d'abord avait un but purement pratique d'échange, de récupération éventuellement de moyens de communication et tout ça. Aujourd'hui, c'est différent puisqu'on a effectivement des mouvements activistes très, très militants. Mais donc, moi, personnellement, je ne sais pas très bien à quels objectifs ils répondent et à quelle stratégie ils obéissent. J'attends de comprendre. Je trouve que c'est un phénomène qui a sûrement beaucoup d'un intérêt politique considérable, mais je ne vois pas tellement bien où ils veulent en venir. Voilà. Je ne sais pas où est leur projet, en fait. Voilà. Donc je regarde ça avec un certain scepticisme.
Et vous qui devez être en contact avec des dirigeants et des militaires, qu'est-ce qu'ils ressentent de l'autre côté de la ligne ?
Il y a une prise en considération très sérieuse de tous ces phénomènes. Et ils ont évidemment la tentation, eux, de mettre des murailles, de dresser des forteresses dans lesquelles on ne puisse pas rentrer. Mais ils savent aussi que les forteresses sont toujours contournées, que les boucliers, les cuirasses sont toujours battues par les lances. Et donc, ils ont un problème, ceux qui luttent contre le hacking ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination, souvent. Et que donc, ils se font avoir assez facilement, quoi.
Moi, j'avais une question davantage sur le rapport entre les données qui sont sur Internet, etc., la manière dont elles sont utilisées, soit par les commerciaux, soit par les politiques. Qu'est-ce que vous mettez comme limite entre l'utilisation par les commerciaux et par la politique ou la sécurité ?
L'utilisation des données, surtout par les commerciaux pour l'instant, c'est-à-dire que les données techniques que les utilisateurs transmettent sont collectés, analysés en masse et donnent des outils commerciaux ou bien pour cibler l'individu ou bien pour préparer de nouvelles stratégies commerciales et tout ça. Les politiques pour l'instant sont un peu en retrait, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup d'utilisation de ces moyens-là. En revanche, ils utilisent beaucoup la communication électronique pour joindre les citoyens et les voilà. Mais je suis pas très convaincu que les politiques ils n'ont pas les moyens des entreprises pour faire des choses comme ça. En revanche, le commercial, oui, c'est très important.
Pour revenir un peu à votre domaine privilégié, niveau de l'armée, est-ce que le fait que les Afghans aient réussi à expulser les Occidentaux par des technologies qui sont assez primaires, les portables, vous avez eu l'occasion de le dire, est-ce que c'est pas la preuve que les civils peuvent avoir le dessus sur des grosses instances
Mais c'est-à-dire que les Afghans ont un avantage primordial sur les Occidentaux qui sont sur leur terre, c'est que ils sont chez eux, donc ils savent pourquoi ils se battent, alors que les Occidentaux le savent plus trop. Et les technologies militaires les plus perfectionnées mises en place pour empêcher les talibans et autres sectaires de revenir au pouvoir n'ont servi à rien. C'est-à-dire, il a fallu 10 ans, mais au bout de 10 ans, l'Afghanistan sera sans militaires occidentaux, exactement dans la situation dans laquelle il était en 2001. Donc, c'est objectivement un échec grave.
Au niveau des pirate box qui commencent à se développer, donc c'est le sort de serveurs locaux d'internet ultra local. Est-ce que justement c'est pas l'avenir en fait ? C'est vu que un réseau mondial sera forcément contrôlé, surveillé. Est-ce que c'est pas la solution pour garder ces informations chez soi ?
Je crois qu'en fait ça bâtit sur un truc très banal. Moi, dans mes études du partage, j'ai regardé beaucoup un des meilleurs dispositifs de partage, qui est le swapping de clés USB, qui a l'immense avantage vu leur grande capacité de permettre des mutualisations de collections entières. Donc en réalité, quand on regarde, au départ ça paraissait très limité par le fait que l'objet physique est localisé, donc il ne peut pas se balader d'un endroit à l'autre. Mais en réalité, quand on regarde la réalité des réseaux sociaux des gens, on voit que ça permet quand même du partage à grande échelle, vu la vitesse et la capacité. Donc le fait de pouvoir, à un moment donné, dans un mode concentré dans le temps et dans le lieu, faire très rapidement des échanges, moi, ça m'intéresse doublement. D'une part, parce que je crois que c'est un mode de partage efficace et très difficile à réprimer, et d'autre part parce que ça s'accompagne d'une socialité. Ce qui est un élément clé, un des gros défauts de la guerre contre le partage, c'est que ça le plonge, le partage, dans la clandestinité, ça l'empêche de mûrir des éthiques, des trucs. Donc il y a eu deux réponses à ça. Il y en a une qui est les trackers fermés, les des C++ avec des règles particulières type no porno ou, tout, un intérêt pour un type de contenu particulier et des forums associés, donc de la discussion sur ce qui se partage. Il y a un Néerlandais qui est en train d'étudier d'ailleurs s'il y a un impact de si ces différences qui se partagent quand il y a de la discussion autour et notamment au niveau distribution. Donc ouais, je pense que c'est des dispositifs très intéressants. Reste à savoir s'ils ne seront pas rendus illégaux par de nouvelles lois. Mais en tout cas, s'ils essayent de les rendre illégaux, je protesterai.
Niveau militaire, hélas, pour rejoindre les deux intervenants, ça a des vrais enjeux. Parce que c'est un réseau qui est fermé, on ne le contrôle pas, on ne peut pas le surveiller, on ne peut pas savoir s'il y a des... Allez, on va prendre les thèses les plus extrêmes. On ne peut pas savoir s'il y a des attentats qui se fomentent dans ces réseaux fermés.
Maintenant, ceux-là, ils sont quand même localisés. Hein. Ouais. Ça toujours... je veux dire que des gens puissent être... ça demande d'autres techniques d'observation et qui sont beaucoup plus coûteuses et risquées. Ouais. Mais je ne pense pas que ça... On sait très bien que, bon, à l'heure actuelle, les gens qui veulent vous mettre hein, quelque chose qui enregistre tous vos mots de passe à partir des clés que vous tapez, ils peuvent y arriver. Hein. Donc je dirais que ce n'est pas un but raisonnable d'empêcher que des services de sécurité qui veulent espionner quelqu'un puissent le faire. Hein. On peut essayer de faire que ça soit soumis à des règles juridiques et surtout on peut essayer de faire qu'il n'y ait pas une espèce d'espionnage généralisé de tout le monde, des profilages, des milliers de gens, des tensions arbitraires comme dans le Patriot Act, des choses comme ça. Quoi, hein. C'est sûr, je ne suis pas sûr que ça représenterait une menace, je ne suis pas capable d'en juger, il faut demander à Jean-Minier.
D'accord. Quand c'est vrai, on va le laisser. Merci beaucoup.